à Voigny. Cette semaine, Adila Benedjaizou rencontre Philippe Mangeau. Ce soir, survivre. Bonsoir Philippe Mangeau.
Bonsoir Adila.
Nous poursuivons avec vous votre jeune histoire de jeune vétéran. Et le propre du vétéran, c'est qu'il en réchappe justement. Il revient de la guerre, pas forcément indemne, mais vivant. Et dans votre Instagram, il y a cette photo de manifestant qui a écrit sur son blouson, c'est en anglais, mais je traduis en gros. Si je meurs du sida, oubliez les funérailles, jetez mon corps devant la porte du ministère de la Santé. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez réfléchi à ce que vous vouliez qu'on fasse de votre corps?
On racontait tous des trucs comme ça. Alors, on va être un peu sérieux. Si vous saviez... Alors, d'abord, jeter un corps, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour jeter le corps de son ami, quoi. Donc ça, on peut pas. Donc on pouvait toujours faire les fiers à bras en racontant ce genre de choses. Je pense que c'est David Wojnarowicz qui sur cette photo, qui était un artiste, qui est mort du sida. Mais dont le corps n'a pas été jeté devant le ministère de la Santé non plus. En revanche, on rêvait vraiment de la question des enterrements politiques. C'était quelque chose qui nous travaillait beaucoup. Et dans le film de Robin, ce moment par exemple, où l'un des gamins dit en voix off, voilà ce qui s'est passé en 1848, la promenade des charrettes. Hein. On a mis les fusillés de 48 sur une charrette et on a traversé Paris avec les corps de fusillés. Ça nous fascinait. Je me souviens que en réunion, on était deux à être fascinés par ça. Mon copain Jacques Martineau et moi, on se racontait ça. On l'a raconté en réunion. Donc on était fascinés par la question des enterrements politiques. On en a fait très peu, en vérité. Sans doute parce que militer, c'est quand même à un moment mettre son émotion à distance, la styliser, la théâtraliser, et que quand l'émotion est trop forte, c'est-à-dire quand l'un d'entre nous meurt, il devient très difficile de la mettre à distance, de la théâtraliser. Donc on en a fait très peu, il y a eu l'enterrement de Klaus Wellem, mais enfin on n'a pas jeté son corps, mais on a porté son cercueil dans les rues de Paris, sur nos petites épaules. Et puis il y avait la question comique des cendres. C'est-à-dire que quand même, il y avait une manie à ACT UP qui était que tout le monde nous léguait ses cendres. Et donc on avait un nombre d'urnes considérables dans un placard que personne n'osait ouvrir, évidemment, qui était une sorte de petit cimetière dans le local d'ACT UP, avec des urnes et des cendres à l'intérieur. Bon. Et c'est très compliqué, c'est-à-dire que ça peut être possible de jeter des cendres, mais enfin c'est quand même bizarre de se dire « Ah tiens, ça c'est les cendres de Joseph, par exemple. » Voilà. Surtout que... Je ne sais pas si vous avez déjà touché des cendres après une incinération, mais enfin, il reste quand même des petits morceaux d'os. Et il y a eu un accident un jour, c'est-à-dire qu'on a jeté des cendres de quelqu'un sur la tête d'un, je ne sais pas qui s'est pris un morceau d'os dans les yeux, ce qui, voilà, c'était un peu compliqué. Donc on ne savait pas très bien quoi en faire, et c'était compliqué. Et on rêvait tous à un moment de pouvoir se débarrasser des cendres. Donc on a fini par, notamment, comme c'est montré dans le film d'ailleurs, les jeter sur des petits fours. Mais moi, du coup, j'avais vraiment décidé que je lèguerais pas mes cendres à ACT UP. Alors là, vraiment, pour rien au monde, je voudrais terminer dans le placard de métal. Non, je voulais un vrai enterrement. Alors on faisait des trucs complètement idiots. On faisait des playlists. Alors, comme on mourait pas aussi vite que prévu, on changeait nos playlists à peu près tous les deux mois ou tous les trois mois à la faveur de la sortie d'un nouveau tube de house ou de... Et d'ailleurs, c'était très bizarre parce que quand même, le nombre d'enterrements auxquels j'ai assisté, où on écoutait la musique aux enterrements sur laquelle on avait dansé la veille, était quand même un peu troublant. Et donc, c'est la façon dont je me représentais mon propre enterrement était au contraire assez provincial. J'avais envie d'être enterré tranquillement et sans manifestation politique.
Donc revenons à cette année 1997 où vous réalisez que finalement vous allez peut-être vivre et où vous devenez président d'ACT UP.
Fondamentalement, j'ai toujours cru que je ne mourrais pas. Je me croyais protégé. Je me croyais protégé par la chance que j'avais d'avoir des bilans sérologiques favorables. Je me croyais protégé par le fait qu'il y avait un drôle de locution à l'époque. On nous appelait les survivants à long terme. Et donc je faisais partie d'une cohorte qui essayait de comprendre pourquoi moi je développais pas un sida. Et donc, toutes les hypothèses avaient été formulées, notamment, on espérait que j'avais une vie saine. Et alors, ils étaient paniqués quand ils voyaient que je fumais 2 paquets par jour. Donc, ils comprenaient pas très bien. Maintenant, on comprend mieux. J'ai sans doute été contaminé par un virus peu virulent. Mais ça, on le savait pas à l'époque. On ne le savait pas à l'époque. Donc, j'étais sans doute protégé par cette espèce de locution ultra-violente, en fait. Survivant à long terme, c'est vraiment très très violent, et pourtant, sans doute me protégeait-elle. J'étais peut-être aussi protégé par le militantisme. Quand je disais tout à l'heure que le militantisme, c'était une façon de mettre ses émotions à distance, c'était aussi une façon de théâtre. Quand on disait « nous allons mourir », ça devenait presque une réplique théâtrale. Hein, au point, par exemple, que quand quelqu'un disait c'est nous qu'on meurt, parce que c'est comme ça qu'on le disait pour s'en moquer à l'intérieur d'une réunion, c'est-à-dire plus devant des interlocuteurs, tout de suite, ça provoquait une sorte d'irritation très grande à l'intérieur de la réunion. Ça, c'est quand même une des choses que j'ai apprises en militant. C'est que le militantisme est une protection à la fois réelle, parce que, voilà, on savait où aller, on avait une information immédiate, parce qu'on n'avait pas peur aussi, donc c'est une protection sociale en un sens, mais c'est aussi une protection imaginaire, et une protection imaginaire merveilleuse, vraiment merveilleuse. Donc j'avais pas le sentiment que j'allais mourir du sida, alors qu'il y avait des raisons objectives de penser que je pouvais mourir du sida. Voilà. Mais donc je suis devenu président, en fait tardivement, et ce qui a... Et cette année de grande mélancolie consécutive à l'arrivée des trithérapies. Ce qui a relancé pour moi la machine, ça a été la conjoncture politique. À l'échelle de ma vie politique, de ma vie militante, il y a eu 2 années merveilleuses, 3 années merveilleuses en fait. C'est 95-98. 95, les grandes grèves, les grandes mobilisations sur la question de la sécurité sociale. C'est aussi le moment où ACT UP fait des petits. Pas au sens où ça serait quelque chose de conscient, mais on voit surgir un peu partout des mobilisations qui ressemblent à celles d'ACT UP, et notamment du côté des sans-papiers. Parce que c'est le même geste, après tout. Ça consiste à dire, nous allons parler en notre nom. Et nous allons être partie prenante d'une discussion qui nous concerne directement, ce qui suppose qu'on assume pleinement le statut honteux auquel on veut nous assigner. Oui, nous sommes des sans-papiers et nous allons cesser de nous cacher. Oui, nous sommes des chômeurs et nous allons cesser de nous cacher. C'est le moment des mobilisations de précaires, par exemple. Donc c'est un moment d'effervescence politique très très grand, très passionnant. C'est le moment de surgissement de la coordination des intermittents, par exemple. C'est le moment des premières coordinations de sans-papiers. Dans la foulée de grèves à l'ancienne, qui sont les grandes grèves de 95. Et donc, il y a la possibilité, comme ça, d'une conjonction très très forte de formes de lutte extrêmement différentes, Et conjonction qui, avec le génie particulier de la droite, quand elle en a, à laquelle est offert un cadeau, Chirac dissout l'Assemblée. Il dissout l'Assemblée pour mieux gouverner, et il perd la majorité. Et dans cet intervalle-là, à ACT UP, on décide de lancer un mouvement qui est un mouvement minuscule, mais qui est symboliquement important, qui est « Nous sommes la gauche ». « Nous sommes la gauche », au départ, c'est un texte. C'est le texte de Jean d'ACT UP et de Jean de Vacarme, parce que Vacarme vient de se créer. Moi, je fais partie des gens qui sont des deux côtés, à la fois d'ACT UP et de Vacarme, et qui considèrent que l'anticipation des élections prive le champ associatif de la possibilité de faire entendre sa voix, qui est celle qui est traditionnellement associée au moment électoral. Je crois qu'on n'y croit plus aujourd'hui, mais en tous les cas, on y croyait à l'époque. Et donc, il faut se saisir de cette fenêtre ouverte dans l'urgence pour faire entendre quelque chose. Et donc, on écrit ce texte, et c'est drôle parce que il y a eu une nuit d'écriture de ce texte qui dit presque rien, qui dit juste « Nous sommes la gauche, nous sommes ceux qui avons manifesté, nous sommes etc. » et qui se termine par « Nous sommes la gauche parce que nous la faisons. » Et qui, pour la première fois, fait valoir, en fait, qu'il n'y a pas d'un côté une gauche de témoignage, une gauche sociale, et de l'autre une gauche politique, mais qu'il n'y a de possibilité de pouvoir, de prise de pouvoir de la gauche qu'à la condition que ces deux gauches pas travaillent ensemble mais assument leur conflictualité, ce qui suppose une reconnaissance commune. Ce qui était, à mon avis, une intuition politique considérable qui manque encore à la gauche de parti, qui en gros rêve d'être les représentants du mouvement social mais qui a peine à considérer que le mouvement social est véritablement une instance politique. Ils ont essayé, mais fondamentalement, ils sont repris par des vieux réflexes. Et je me souviens très bien que la première mouture du texte à laquelle on était arrivé commençait par une phrase inventée par Pierre Zaoui de Vacarme, qui était « La gauche officielle va gagner les élections grâce à nous ». Et là, on s'est dégonflé. Et c'est devenu « la gauche officielle ne gagnera pas les élections sans nous ». Ce qui est quand même vachement moins classe quand on sait que la gauche officielle a gagné les élections. Mais c'était un moment incroyable. C'est-à-dire que nous avons convoqué les responsables, les différents responsables politiques de gauche. On a été bien traités par le Parti communiste. Vraiment, au sens où ça a castagné. Ils n'étaient pas d'accord avec nous. Mais enfin, ils ont vraiment répondu à nos questions. On a été très maltraités par les Verts, qui ont considéré qu'il y avait une telle évidence, qu'ils nous représentaient, qu'ils ne comprenaient pas du tout pourquoi on était énervés. C'était très beau, parce que Nous sommes la gauche rassemblait des militants transgenres, des militants de la lutte contre le sida, des militants sans papier, des syndicalistes. Il y avait vraiment cette espèce de conjonction très bizarre, très multiple, c'était une sorte de cours des miracles politiques très inventive. Je me souviens, on avait reçu, alors on a été évidemment mal reçu par le Parti Socialiste, mais ça c'était la moindre des choses, mais on les avait reçus dans le seul endroit qu'on avait trouvé pour pas cher, qui était les entrepôts de Saint-Maclou. Donc c'était plein de chutes de moquettes partout, enfin ce qui disait quelque chose, cette espèce de vitalité comme ça qui était la nôtre et qui était vraiment très belle, le texte avait été publié dans Le Monde, dans les Inrocks aussi je crois, un certain nombre de responsables politiques nous avaient répondu avec plus ou moins de bienveillance, certains essayaient de nous renvoyer dans les cordes, enfin ou en tous les cas dans notre lieu testimonial, quoi. Enfin, ils se trompaient. Et donc c'est dans la foulée de ce retour d'enthousiasme politique, qui est celui de la culture de gauche en France, que je deviens président. Et je deviens président d'ACT UP. Et j'observe depuis la présidence d'ACT UP ce qu'a été, ce que je considère comme la première trahison majeure de la gauche à partir de ce moment-là, c'est-à-dire les années Jospin, qui considèrent que le mouvement social n'a pas à se faire entendre, que tout au plus on peut ouvrir des guichets pour qu'ils viennent déposer des cahiers de doléances, mais il y a ceux qui gouvernent et puis il y a la rue. Et la rue ne gouverne pas. En bref, ils fusillent les raisons pour lesquelles ils ont été élus. Ils contribuent à l'affaiblissement du mouvement social et on sait ce qui arrive par la suite.
C'est dans ce contexte-là que naît l'idée d'une revue ?
Alors c'est dans le contexte de l'agitation sociale antérieure à Nous sommes la gauche, puisque la revue du Vacarme est née auparavant. Qu'est-ce que c'est une revue ? Une revue, c'est une aberration économique, fondamentalement. C'est lu par très peu de monde, ça demande un investissement, un travail absolument considérable. Alors c'est lu par très peu de monde, mais c'est fait pour durer. On sait bien que la vie des idées passe naturellement par les revues. Mais j'ai mis longtemps à comprendre qu'une revue, c'est une auto-institution qui permet à des amis de continuer à penser ensemble. Voilà. Et à travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait, ce « on », c'est à la fois des gens qui s'étaient rencontrés quelques années auparavant, quand on faisait nos études, soit à Normal Sup, soit ailleurs, ou dans des mobilisations très locales. J'avais rencontré un certain nombre de gens de Vacarme dans le cadre d'une mobilisation contre l'installation d'une librairie négationniste, la Vieille Taupe, qui éditait Forisson, par exemple, en face de l'école normale supérieure. Donc évidemment, on les avait fait fermer, en empêchant quiconque de passer. Donc on a asséché la possibilité qu'ils soient visités. Et donc je les avais rencontrés, et puis beaucoup d'entre eux avaient rejoint ACT UP. Donc il y avait comme ça ces groupes d'amis qui s'étaient constitués dans des mobilisations, dans des études à ACT UP. Et puis la vie continue, et puis les gens s'en vont, et puis les groupes se défont, et puis chacun se spécialise parce qu'on n'est plus tout à fait étudiant, et le risque est d'arrêter de penser ensemble. Et puis un jour, on a tous reçu, en 95, une lettre de Pierre Zawi. Lettre évidemment complètement bouleversante parce qu'elle était liée à un drame. Pierre était tombé très très amoureux d'une jeune femme qui était sans doute la femme la plus grande militante des traitements en France, qui s'appelait Nathalie Dagron, la plus brillante, la plus éclatante, la plus rapide, celle qui convainquait les adversaires les plus farouches de toute espèce de redéfinition des protocoles de recherche. Et Nathalie était à ACT UP. Et puis, de toutes les morts du sida, la mort de Nathalie a été la plus horrible. C'est-à-dire que Nathalie est devenue un enfant de 3 ans. Son cerveau s'est détruit. Mais ça s'est passé en 6 mois, quoi. Nathalie aurait pu être sauvée. Nous avons fait tous les laboratoires, tous les laboratoires, parce que nous savions qu'il y avait des médicaments en expérimentation, pour qu'elle les ait avant leur autorisation. Et on nous a dit non. J'ai une histoire à raconter il y a 15 jours, parce que mon père travaille dans l'industrie pharmaceutique, et il y a 15 jours, je suis allé à un déjeuner de copains de mon père de l'industrie pharmaceutique. Et je croyais qu'on allait parler d'autre chose. Il voulait me rencontrer parce qu'il m'avait entendu à la radio, etc. Et puis, en fait, on a parlé d'Act Up. Et à un moment, c'était très bizarre, c'était des anciens combattants de front opposés qui parlaient. C'était une très belle réunion parce qu'on se disait vraiment la vérité. Et à un moment, l'un d'entre eux m'a posé une question très étrange. Je parle d'un médecin qui a travaillé dans un laboratoire pharmaceutique. Il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas posé de bombe ? Donc j'ai répondu qu'on ne posait pas des bombes. Sa question, c'est une question déjà très troublante, évidemment. Vous alliez mourir, pourquoi vous n'étiez pas plus violent ? Et puis au fil de ma réponse, j'ai dit, il y a une fois, j'ai eu envie de poser des bombes, et j'ai raconté l'histoire de Nathalie, j'ai raconté la façon dont on a fait le tour des labos. Et là, l'un d'entre eux a dit, je me souviens très bien, nous nous sommes réunis, tous les labos. La discussion a duré 3 heures, et au bout de 3 heures, il a été mis un veto sur le fait de donner des médicaments. Et j'ai dit, elle aurait pu être sauvée. Et il a dit, je sais. Fin de l'histoire. Mais j'étais moyen quand je suis rentré de ce déjeuner. C'est-à-dire que j'étais moyen comme chaque fois qu'on se dit, et en plus c'est vrai. Je le savais depuis toujours, et en plus c'est vrai. En attendant, Pierre était très amoureux de Nathalie, et Nathalie était en train de mourir. Et Pierre nous a envoyé une lettre, comme on appelle au secours, en disant, il faut qu'on retravaille ensemble, vraiment. Et c'était évidemment un moment où on savait bien que le militantisme aussi engagé, merveilleux, qui était celui d'Act Up, n'allait pas sauver Nathalie. Et qu'il fallait qu'on se remette à penser ailleurs, et surtout que c'était aussi un moment où on écrivait d'un côté des tracts et de l'autre des thèses, quoi. Et que ça pouvait être intéressant de penser une écriture intermédiaire entre les tracts et les thèses. Quelque chose qui serait politique et savant. Qui procéderait de la rencontre du savoir des savants et du savoir des militants. Quelque chose qui aurait à voir avec nos désirs de poésie. Et ça a été Vacarme. Et ça s'est appelé Vacarme parce qu'il y avait ce texte de Lévi-Strauss qui parlait de ces peuples où on fait du vacarme au moment des deuils pour se rappeler qu'on n'est pas mort.
Est-ce qu'il y a des articles de Vacarme dont vous êtes particulièrement fier ?
Ouais, il y a plein d'articles dont je suis fier. Il y a plein d'articles que j'aime pas beaucoup aussi. Mais je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question-là. Aujourd'hui, je suis plus à Vacarme. J'ai décidé de quitter Vacarme il y a 3 mois. Parce qu'il y a un moment, il faut partir, comme j'ai décidé de partir, de quitter Act Up. À un moment, en 2003, j'ai décidé de quitter Act Up. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, alors que quand même, j'ai accompagné Vacarme toutes ces années-là, y compris on en étant rédacteur en chef pendant un certain temps, je me rends compte que j'ouvre plus jamais un journal papier, un vacarme papier. Je consulte tout maintenant sur la version électronique, puisque tout est disponible après un an après la parution. Et Vacarme est une vieille revue maintenant, c'est une revue qui a plus de 20 ans. Donc à l'échelle de la vie des revues, c'est comme les animaux, vous savez. Quand on avait un chat, on disait « Ah, il a une année chat, c'est 7 années homme » ou quelque chose comme ça. À l'échelle des revues, une revue qui a plus de 20 ans, c'est une vieille revue. Et quand je navigue sur le site, je suis stupéfait de voir ce qui a été parcouru dans cette revue. À la fois d'intuition poétique, quelques-uns des poètes américains d'aujourd'hui qui comptent le plus pour moi, on les a publiés dans Vacarme, on les a publiés en les traduisant. D'intuition politique, parce que Parce qu'au début de Vacarme, il y a le projet fondamental de penser l'articulation entre le social et le minoritaire. Question dont nous ne sommes toujours pas sortis. Le minoritaire, c'est-à-dire les politiques des sexualités, politiques des femmes, politiques... Et donc, voilà, c'est ce qui me... La fierté, c'est pas la fierté pour tel ou tel article, même s'il y a des articles auxquels je tiens particulièrement, mais la fierté pour cette aventure collective-là. Qui a été une aventure où on a inventé à l'occasion des trucs, et notamment, c'est pas forcément les meilleurs articles de Vacarme, mais c'est les articles les plus joyeux dans leur modalité de production, c'est-à-dire des textes collectifs, c'est-à-dire des textes où on arrive à partir d'une discussion et puis à ouvrir un document commun sur le net où tout le monde écrit sans signer, et puis après on regarde ce vaste patchwork dans lequel chacun est intervenu à l'intérieur du texte d'autrui, et puis on se retrouve une dernière soirée pour reparcourir tout chousse le texte, le lisser et lui donner une sorte de cohérence. Voilà, c'est pas forcément les plus beaux articles de Vacarme, mais c'est les articles, pour le coup, dont je suis le plus fier, pour ce qui est de la façon... Parce que m'intéresse toujours le fait qu'un texte porte en lui le processus politique qui a mené à son écriture. Et ces textes-là, certains d'entre eux sont très beaux, d'autres sont plus ratés, mais ces textes-là sont des textes politiques en tant qu'ils existent.
Merci Philippe Mangeot. Demain, nous explorerons la manière dont vous avez écrit aussi en dehors de Vacarme. À demain donc.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Adila Benedjaizou avec Philippe Mangeot. Avoigny, réalisation Massimo Bellini, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. Avoigny s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.